ce sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien, rien que de la musique. Ce ne sera rien, rien que des mots, des mots. Aux cartes, ça n'empêchera pas de dormir sur l'autoroute, ça n'empêchera pas de parler d'argent, ce sera tout à fait comme à la radio.
Radio Pleine Lune, 93.8 MHz, Ondes Femmes Radio Zone. Vous trouvez pas, il commence à faire frais, on sent vaguement les frimas et Marjolaine est toute recroquevillée. Quevillée sur sa chaise, il fait très froid, mais ça fait rien, la lune est dans vos oreilles, sur 93.8 MHz, avec dans quelques instants nos nouvelles, suivies de Canicule, le quart d'heure lesbien sur Radio Pleine Lune, et puis les rendez-vous de Marjolaine, à 20h un programme musical, et à 21h un programme sur la conférence publique qui s'est tenue la semaine dernière autour de la pilule abortive, le RU 486. Cette conférence qui ouvrait en quelque sorte la conférence mondiale sur la contraception et l'avortement dont nous reparlerons très bientôt. Radio Pleine Lune 93.8 MHz, je vous rappelle notre numéro de téléphone, le 50 40 51 41 023 depuis Genève, 033 depuis Zurich. À tout de suite pour nos nouvelles. Radio Pleine Lune 93.8 MHz, nos nouvelles. Nous commençons tout de suite par ouvrir le dossier de l'Europe. Vous savez que depuis plusieurs semaines, nous revenons sur ce sujet et nous continuerons à en parler. En France, les femmes de moins de 25 ans ont voté majoritairement non au traité de Maastricht. Selon un sondage, les femmes auraient en moyenne montré légèrement moins d'enthousiasme que les hommes au traité de Maastricht. Lorsqu'on analyse les déclarations par âge, on constate qu'une grande différence de comportement selon le sexe pour les moins de 25 ans. Les hommes de cette tranche d'âge se seraient prononcés à 58% pour le oui, alors que les jeunes femmes ne l'auraient fait qu'à 43%. L'écart de 15 points vaut la peine qu'on en cherche les raisons. Les motivations économiques viennent immédiatement à l'esprit. Plus que les hommes, les femmes subissent durement les tensions sur le marché du travail. On le sait qu'elles sont souvent plus vite licenciées et surtout moins payées. Conscientes de leur fragilité, elles craignent probablement l'Europe qui se profile. Une Europe où, dans un premier temps du moins, la concurrence et la lutte pour l'emploi risquent d'être encore plus âpres. Madame Janine Mossu-Lavaux, directrice de recherche au CNRS, voit aussi une autre raison plus politique cette fois à ce vote féminin. Elle étudie les comportements politiques des femmes et constate que depuis plusieurs années, celles-ci se prononcent plus souvent que les hommes en faveur des idées de gauche. Les jeunes femmes, dit-elle, lors du référendum, ont été cohérentes avec leurs préoccupations de lutte contre l'injustice sociale. Pour elles, l'Europe proposée par le traité est une Europe du grand capital qui sacrifie le social. Elles ont probablement voulu protester contre le système politique des nantis et de l'establishment. Au Danemark aussi, vous le savez, on l'a déjà dit, le non à Maastricht, ça a été un non des Danoises. Ce non, en juin dernier, a montré l'attitude critique dans les pays scandinaves face à l'Europe des 12. Le slogan des adversaires, c'était « oui à l'Europe, non à l'Union ». Et ce slogan reflète l'attitude de nombreuses Danoises. Beaucoup de femmes aussi tendraient plutôt à compter parmi les sans-opinion. Pourquoi, disent-elles, devrions-nous nous préoccuper de l'Europe puisque nous n'avons de toute façon rien à dire et qu'avec ou sans Europe, cela ne changera pas grand-chose et certainement pas en mieux. Par comparaison avec le reste de l'Europe, l'égalité des femmes au Danemark est plutôt enviable. Il y a entre autres longtemps que la loi impose un salaire égal pour un travail égal et à la suite de l'adhésion de la CE, le principe salaire égal pour travail égal a dû être adopté. Bien entendu, malgré cette égalité légale, le patriarcat n'a pas été aboli en Scandinavie. Nous n'avons pas encore les mêmes salaires pour le même travail. Nous voulons être mieux représentés dans la politique, dans les associations et les instances dirigeantes. Ce sont toujours les femmes qui ont la charge des enfants, du ménage, etc. Il nous faut continuer à lutter car il reste beaucoup à faire, nous disent les Danoises. Au Danemark aussi, on trouve plus de femmes que d'hommes dans les emplois à temps partiel, dans les professions sans débouchés de carrière et à bas salaire, et les femmes continuent à gagner moins que les hommes, en moyenne 72%. Au Danemark, comme en Norvège, la majorité des femmes pensent que l'État-providence ne survivra pas à la communauté européenne. Les efforts pour rendre le marché intérieur européen concurrentiel par rapport au Japon et aux États-Unis coûteront à l'État danois, dès 1993, des milliards de couronnes de recettes fiscales, ce qui obligera à réduire son budget de 20%. Cette évolution apportera de l'eau au moulin de ceux qui plaident pour une diminution des prestations sociales, qui se chargera alors, bénévolement bien sûr, des tâches que l'État ne pourra plus financer. La réponse n'est pas difficile à deviner pour les Danoises. Pour Else Skinsberg, spécialiste des questions féminines en Norvège, la cause est entendue sur le plan politique. Nous n'avons aucune raison de croire que la communauté européenne est conçue en premier chef pour tenir compte des intérêts et des besoins des femmes. Il est d'autant plus nécessaire que celles-ci participent à la discussion. Quel avenir, quelle société voulons-nous ? Autre opinion, celle donnée par Ruth Dreyfus, secrétaire en chef de l'Union syndicale suisse, dans les pages de ce journal, du journal de cette organisation. Elle nous parle du deuxième pilier et des conséquences que l'EEE aurait pour le deuxième pilier des femmes. Les femmes aujourd'hui, lorsqu'elles sont mariées en Suisse et qu'elles abandonnent leur activité lucrative, peuvent sortir du système de la prévoyance. Elles obtiennent à leur demande le versement en espèces de leurs prestations de libre passage, tant pour la partie obligatoire que pour la partie extra-obligatoire. Pour leurs vieux jours, c'est uniquement sur l'assurance de leur mari qu'elles peuvent compter. L'argent de la prévoyance professionnelle joue en quelque sorte le rôle d'une dot. Bien entendu, quand elles divorcent, elles perdent à ce moment-là tout. L'égalité entre hommes et femmes, qui devrait être appliquée avec l'entrée dans l'espace économique européen, impliquera demain qu'on ne les traite plus ainsi. Elles resteront assurées, mais perdront du même coup le droit de récupérer prématurément leur cotisation. Et puis, il y a aussi tout le travail à temps partiel, dont on sait qu'il est une spécialité féminine. Le degré d'activité des femmes rémunérées, bien sûr, fluctue, avec pour conséquence qu'elles sont tour à tour soit intégrées à la prévoyance professionnelle ou qu'elles en sont exclues, puisque l'obligation de s'assurer ne vaut pas pour les revenus inférieurs à 20 000 francs par an. Il y a donc encore du pain sur la planche pour réaliser dans le domaine de la sécurité sociale la pleine égalité de traitement, tant entre d'ailleurs nationaux que migrants, qu'entre hommes et femmes. Toujours sur ce sujet, on pourrait dire que ça en devient un leitmotiv, que c'est vraiment universel. Toutes les enquêtes se suivent, se ressemblent d'année en année. La dernière en date provient de l'Organisation internationale du travail et elle confirme que les femmes travaillent plus et gagnent moins que les hommes partout dans le monde et l'écart de salaire se creuse, notamment en Suisse. Une différence qui s'explique par les systèmes de promotion, à l'ancienneté, à la concentration des femmes dans les emplois les moins bien rémunérés. Dans la plupart des pays, elles travaillent plus que les hommes, heures de travail domestique comprises. En Afrique, par exemple, elles travaillent 67 heures par semaine contre 53 pour les hommes. En Asie, 62 heures contre 48 pour les hommes. En Europe, 48 contre 43. En Amérique latine, 60 contre 54. Les femmes latino-américaines font de moins en moins d'enfants grâce à la contraception. C'est ce qu'a révélé une étude d'un bureau de la population. En 1960, on comptait 6 enfants par famille. En 1990, ce chiffre a baissé à 3,4 enfants. procès très spécial aux États-Unis, en Floride. Un jeune garçon de 12 ans divorce de ses parents naturels. Gregory Kingsley, tu es désormais le fils de monsieur et madame Roos. C'est en prononçant ces phrases sans précédent qu'un juge de Floride a reconnu à un enfant de 12 ans le droit de se séparer légalement de ses parents et a ouvert le voie à d'autres procès de ce même genre. Gregory Kingsley reprochait à sa mère ses absences, son indifférence, ses excès d'alcool et surtout ses relations homosexuelles et puis, bien sûr, très grave, ses oublis des dates d'anniversaire. Placé dans une famille d'accueil, celle de George et Elizabeth Ross, Gregory a choisi d'être adopté par ceux-ci. Alors, pendant le procès, on a vu s'affronter d'un côté la mère, qui est mère célibataire de 31 ans, que ses avocats décrivent comme une femme pauvre, marquée par une vie dure, qui travaille et qui aime bien ses enfants. Pour eux, il s'agit du procès des riches contre des pauvres. Quant aux avocats du petit garçon, eux, ils se sont efforcés de dépeindre Rachel comme une femme qui fume de la marijuana et une lesbienne instable, une serveuse de restaurant qui buvait ses pourboires. La cause a été facilement entendue. En tout cas, on se dit que ce petit garçon sait de quel côté sa tartine est beurrée. En Somalie et Yougoslavie, il meurt beaucoup plus d'enfants que de soldats. Il meurt beaucoup plus d'enfants en Somalie, en Yougoslavie, que de soldats impliqués dans les combats dans ces deux pays. C'est ce qu'a déclaré le directeur de l'UNICEF. Pour chaque soldat qui meurt en Somalie, on dénombre 10 enfants qui décèdent. En Yougoslavie, la disproportion est moins grande, mais il y a également plus de victimes parmi les enfants que parmi les combattants. En Chine, la police d'une petite ville de la province d'Anhui a renoncé à présenter à la justice un couple de lesbiennes qu'elle avait arrêté, ne trouvant aucun texte de loi concernant les délits commis par une femme sur sa concubine. Une employée et une paysanne vivaient ensemble depuis le début de l'année. La police avait songé à les emprisonner pour délit de mœurs. En France, une dame âgée d'une septantaine d'années a effectué samedi soir pour 300 francs d'achat dans une épicerie. Elle a d'abord voulu régler avec une carte bleue volée, mais devant le refus du commerçant, elle a brandi un revolver. Elle a ensuite quitté le magasin, non sans rafler une bouteille d'alcool avant de sauter dans une voiture. Et toujours dans le chapitre des petites vieilles alertes, une enquête faite aux États-Unis montre que les couples mariés qui partagent une vie sexuelle épanouie passé 60 ans comptent parmi les couples les plus heureux. Parmi ces couples verts, 9 hommes sur 10 trouvent leur épouse très attirante, tandis que 55% la qualifient d'experte au lit. En France, le préservatif féminin ne sera pas commercialisé. Dans l'immédiat en tout cas, les laboratoires Polivet ont renoncé à cette diffusion du Femidom en raison de graves incertitudes que son fabricant britannique fait planer quant au délai d'approvisionnement sur le marché français. Selon le laboratoire, cette décision ne met pas en cause l'efficacité contraceptive et prophylactif du Femidom qui lui est disponible en Suisse. En Suisse, les malades paieront 10 francs par jour d'hôpital. Contre l'avis du Conseil fédéral et de Flavio Coty en particulier, le Conseil des États a décidé hier d'inclure dans l'arrêté urgent sur l'assurance maladie une disposition qui impose aux patients hospitalisés une participation aux frais de 10 francs par jour. Dans sa magnanimité, la Chambre haute en dispensera les enfants, les malades chroniques et les femmes hospitalisées pour une maternité. Les patients outrés par cette nouvelle se sont rebellés. Ainsi, Marguerite Bossard, vice-présidente de l'Organisation suisse des patients, déclare « Les assurés devront déjà affronter les hausses des primes, cela suffit. Par ailleurs, c'est le médecin qui décide de la durée du séjour, pas le patient. Le faire sortir plus vite, d'accord. Encore faudrait-il que les soins à domicile soient performants partout, ce qui est loin d'être le cas. » Quant à Ruth Dreyfus, secrétaire de l'Union syndicale suisse, elle dit « Les mesures d'urgence visent précisément à protéger les assurés contre une hausse insupportable des primes et l'on fait le contraire en introduisant des éléments qui les chargent. C'est d'autant plus choquant que l'on ménage les médecins. » Thank you. ans en Suisse, 15 femmes travaillant pour les boutiques de mode New Big Mac sont en grève pour réclamer leurs droits. Les employés devront peut-être rembourser leur salaire d'août car les chèques bancaires étaient sans provision. 15 femmes employées des boutiques de mode sont donc en grève depuis lundi. Grévistes et syndicats dénoncent les pratiques de Philippe Médère, patron du groupe Twin Holding, dont dépend New Big Mac. Environ 250 000 francs d'impayés en salaire, électricité, baux de magasin dénoncés pour loyer impayés. Les 15 femmes ont dénoncé les conditions de travail dans les boutiques de la chaîne New Big Mac. Depuis la tentative d'assainissement de la chaîne datant de mai dernier, gérantes et employés des 10 boutiques restantes luttent pour des conditions de travail décentes, des contrats de travail légaux et le versement de leur salaire. Le 1er octobre, seules 4 femmes seront encore sous contrat. En août, par exemple, les salaires ont été versés avec 10 jours de retard sous forme de chèques qui n'étaient pas honorés. Les employés qui touchent des salaires bruts entre 2004 et 3700 francs par mois n'ont pas été payés. Et les chèques, les banques les ont mis en garde qu'elles devraient peut-être rembourser les montants versés, les chèques risquant d'être sans provision. Autre conflit du travail à Genève, celui-ci autour d'une ligne hot ou hard, la ligne 156. Deux femmes affirment avoir été utilisées quelque temps sans contrat, puis éjectées sans un sou. S'il s'agit par exemple d'une femme qui a travaillé 2 mois comme hôtesse d'une ligne 156 hard avant d'être licenciée et pour l'heure, aucun salaire ne lui a été versé. Elles sont plusieurs dans le cas, plusieurs à se plaindre des pratiques cavalières de leur employeur, une société de services audio-texte, Cise Américaine, qui réchigne à verser ses dus. Son directeur est Jagmal Ordi, qui est directeur de la société pour toute la Suisse d'ailleurs. Pour les deux femmes en question, l'employeur a trouvé une bonne manière d'exploiter ces femmes puisqu'il a même trouvé, disent-elles, le bon filon pour faire marcher l'affaire. Puisque les clients n'aiment pas avoir affaire toujours aux mêmes voix, il aime bien changer en tout cas l'intonation, la société emploie des personnes soi-disant à titre d'essai tout en leur promettant un contrat. On bosse, disent-elles, et puis au bout de quelques jours, les gens sont mis à la porte sans même qu'on leur paye les heures de travail. C'est ainsi que le stock de voix est renouvelé. Ce week-end à Genève se tenait l'ENRAC, quel beau barbare, un sigle pour indiquer la conférence internationale sur l'avortement et la contraception, ce congrès qui était organisé par l'Union suisse pour la décriminalisation de l'avortement en Suisse, donc l'USPDA. Ce congrès a réuni 150 participantes venues de 28 pays, notamment de l'Europe de l'Est. On a rappelé pendant ces journées que plus de 200 000 femmes meurent chaque année dans le monde lors d'avortements clandestins. Et ces estimations officielles sont bien sûr nettement en dessous de la réalité. On a fait aussi le bilan de la situation de l'avortement dans le monde. Selon les organisatrices, la pratique de l'avortement connaît des difficultés dans les pays du sud européen, Portugal, Espagne, Italie, sans oublier l'Irlande où bien sûr elle est totalement interdite. En Allemagne, la législation est en voie de modification et va sûrement restreindre le droit à l'avortement des ex-Allemandes de l'Est. Quant à l'Europe centrale et orientale, le manque de personnel, d'équipement subsiste. En outre, la contraception est peu répandue et puis la situation en Pologne fait peur. Elle a une législation très libérale, mais bien sûr, cette législation a subi plusieurs attaques et un nouveau code éthique restrictif est en discussion au Parlement. Les pays les mieux lotis en la matière sont Scandinaves, Suède et Danemark, ou les Pays-Bas, de loin les plus libéraux. Quant à la Suisse, elle pratique une attitude totalement hypocrite, déclare Anne-Marie Rey, présidente de l'USPDA. Les lois helvétiques sont parmi les plus restrictives, mais dans la pratique, la Suisse peut se comparer aux pays les plus libéraux, a-t-elle remarqué. Nous reviendrons sur cette conférence, puisque à 9h, vous aurez un compte-rendu d'une conférence introductive sur la pilule contraceptive, et la semaine prochaine, des interviews des femmes que nous avons rencontrées. Toujours au sujet de l'avortement, d'ailleurs, un rapport de l'OMS démontre que malgré les évidents progrès de la contraception, le nombre d'avortements dans le monde reste très élevé, 36 à 53 millions d'avortements par an, dont 15 millions au moins sont clandestins. Si on fait un petit tour des législations, on voit que dans énormément de pays, la situation est très très dure. Dans des pays qui touchent 25% de la population mondiale, on ne peut avorter que lorsque la vie de la femme est réellement en danger. À signaler que ce n'est pas dans les nations dotées d'une législation libérale que le nombre d'avortements est le plus élevé. À Genève, l'affaire du harcèlement sexuel, du harceleur sexuel aux fonctionnaires à l'État de Genève rebondit. C'est l'affaire du docteur D, donc, qui est accusé de harcèlement sexuel par plusieurs de ses employés. Elle vit donc un rebondissement. Le Conseil d'État a demandé un complément d'enquête, confiant le dossier à un juge à la retraite, M. Georges Curtin. Pendant toute la durée de l'investigation, le docteur D a continué à assumer ses fonctions, la suspension n'ayant pas été jugée nécessaire. Aucune preuve existante n'est suffisante pour la suspension du docteur D, avait alors confirmé M. Benno Gatterman, chef du personnel. Les plaignantes ont déclaré qu'elles subissaient depuis un chantage professionnel insoutenable de la part du docteur, qui suffit à décourager les autres potentielles victimes de parler. Au cours de la procédure, les plaignantes, soutenues par plusieurs syndicats et le comité contre le harcèlement sexuel, ont dénoncé le manque de protection dont elles étaient victimes. Pas droit à un accompagnement lors des auditions et interdiction d'accès au dossier, alors que le docteur D, bien sûr, bénéficie de ces avantages. Les organisations qui soutiennent les plaignantes avaient vivement réagi à ce sujet, demandant à M. Vaudeau de combler ses déficiences. Il s'était alors déclaré prêt à y remédier dans un proche avenir. En attendant, les plaignantes devraient suivre la procédure habituelle. Pour le complément d'enquête, la bataille pour la protection des droits des victimes est en partie gagnée, puisque lors de la prochaine confrontation des plaignantes avec le docteur D, tout prochainement, les victimes pourront être accompagnées par une seule personne de leur choix. Par contre, l'accès au dossier leur est toujours refusé. Dans notre rubrique Les hommes sont fantastiques ou rubrique des horreurs. Au Japon, ainsi, un pêcheur a offert sa femme au requin. Un pêcheur japonais a été arrêté après avoir tenté de donner sa femme en pâture au requin à la suite d'une dispute. Cet homme a enveloppé sa femme dans un filet de pêche, l'a ensuite tiré derrière son bateau dans l'espoir d'attirer les requins. En Irak, la mortalité infantile est en forte hausse depuis la guerre. Les enfants donc meurent beaucoup plus dans les mois qui ont suivi la guerre du Golfe, principalement en raison d'une épidémie de diarrhée, elle-même provoquée par un effondrement du système d'évacuation des eaux et un manque d'eau potable. À Genève, une toute petite fille de 11 ans a été abusée sexuellement pendant 9 ans par son père et par son frère. Un Français de 54 ans, père de plusieurs enfants, dont une petite fille adoptive qui venait d'Asie. Elle avait 11 ans quand elle est arrivée en 83. Il commence à procéder à des attouchements avant d'entreprendre des relations complètes de type sadomasochiste. Et cela de manière régulière jusqu'en 1988. Finalement, elle est partie de chez elle et a pu parler. L'homme a été arrêté. Ce que son père ne savait pas et qu'il a appris tout récemment, c'est que son propre fils, qui avait 13 ans, lui faisait concurrence. Lui aussi, de 2 ans, donc l'aîné de sa victime, est prévenu d'attentat à la pudeur. Il a admis les faits et n'a pas été maintenu en détention par le juge d'instruction. En raison des nouvelles dispositions pénales entrées en vigueur dernièrement, les actes commis alors qu'elle avait plus de 16 ans ne sont pas reprochés au jeune homme. Leur différence d'âge est en effet inférieure à 3 ans. Et pour terminer, une rubrique sportive. Cathy Watt, championne australienne de cyclisme, médaille d'or et d'argent aux Jeux Olympiques de Barcelone, a été maltraitée par la police espagnole à l'aéroport international de Madrid. Après avoir participé au Tour de France féminin, elle avait pris l'avion pour l'Espagne. Comme elle n'avait pas de visa, les policiers l'ont arrêtée. Elle a un peu résisté. Ni une ni deux, ils lui ont passé les menottes et c'est avec des bleus au bras et au cou qu'elle est ressortie du poste. C'était les nouvelles de Radio Pleine Lune sur 93.8 MHz. Dans quelques instants, canicule, le quart d'heure lesbien sur Radio Pleine Lune. Waouh!